IDFM Radio vous présente le podcast participatif RIX Zéro, La Parole est à vous, soutenu par la région Île-de-France et en partenariat avec les villes d'Argenteuil, de Sannois, Sarcelles, l'association Dialogue de Femmes, l'association SOC Girl France et la MJC de Persan. Épisode 5.
Je suis Maxime Galliari et je suis chef de service à l'association Contact, donc la même association que M. Warren Ordine. Je m'occupe d'une équipe dont je suis le responsable, en l'occurrence sur le quartier du Val Notre-Dame à Argenteuil. J'ai une formation d'éducateur principalement qui m'a permis d'être sur le terrain pendant plusieurs années. Et encore aujourd'hui, je pratique sur le terrain même si j'ai cette casquette de responsable. Je rejoins un petit peu le groupe quand il s'agit d'évoquer les questions d'identité. Le dénominateur commun pour tous ces jeunes, enfin la grande majorité des jeunes qui sont dans les RIX, sont des adolescents entre 13 et 18 ans, qui sont des jeunes garçons, et donc qui cherchent, je pense, effectivement une raison d'être, parce qu'ils ont du mal à exister autrement. Donc cette société est aussi en partie responsable, selon moi, parce qu'on a un rejet institutionnel de ces jeunes, même bien qu'à l'école, il y a aussi des moyens de réussir, bien sûr, mais il y a une fragilité de fait en étant d'un quartier, venant de quartiers populaires, dits prioritaires, mais dont on sait que les freins sont nombreux, à l'insertion, à l'apprentissage, dans des contextes effectivement pour apprendre à la maison, par moments c'est compliqué parce qu'on a des familles nombreuses, dans des petits logements. Il y a toutes ces questions en fait sociales qui viennent aussi, socio-économiques qui viennent aussi se rajouter. Et donc ces jeunes se cherchent à travers les bandes, c'est un moyen d'exister pour eux, d'être dans l'espace public, de s'approprier des manières de vivre, et donc ils s'imprègnent aussi de tout ce qu'ils peuvent consommer par la société de consommation, donc les films, la musique, et tout ce qu'on envoie en fait comme message à ces jeunes à travers les supports dont ils disposent, ce sont à grande majorité des supports qui montrent de la violence. Donc on ne peut pas non plus s'étonner que ces jeunes pensent que pour être adulte, c'est aussi une manière de se tester en fait dans son rapport au monde, la violence. Donc voilà, moi je suis auprès de ces jeunes, alors on essaie de les accompagner individuellement. Il y a une question d'effet de groupe, donc on ne peut pas ignorer les causes. Et donc on travaille sur les groupes, on travaille sur les individus pour que chacun puisse aussi s'affirmer autrement et en fait trouver des perspectives pour eux-mêmes, donc des projections qui sont de l'ordre effectivement d'avoir un métier, de penser la question de l'épanouissement, comment on peut s'épanouir, un projet de vie effectivement. Et donc toutes ces questions sont inhérentes au travail éducatif au quotidien. Et après, il y a des leviers aussi pour tenter de faire cesser un petit peu ces violences entre groupes, entre bandes.
Ce qui est important aussi de rappeler, c'est la tranche d'âge des jeunes qui sont confrontés à ces RIX. Vous en avez donc entre, j'ai envie de dire, 10, 11, et ça va jusqu'à 16, 17. Donc c'est vraiment une tranche d'âge assez, très, très, très large. Donc dans ces 10-11, évidemment que ce ne sont pas les 10-11 ans qui sont, on va dire, les instigateurs, les premiers à aller vouloir en découdre. En revanche, vous avez une tranche d'âge où effectivement on a plutôt cette recherche identitaire et de positionnement vis-à-vis des pères, comme disait tout à l'heure Arnaud Grondin. Et c'est ceux-là, en fait, voilà, qui, les 15, 14, 15, 16 ans, où là ça commence vraiment à être un peu plus tendu. On vous constate aussi malheureusement, alors là c'est plutôt des données de police, que de plus en plus de jeunes portent sur eux des armes blanches. Donc vous avez des jeunes qui portent des armes blanches parce qu'ils ont envie d'en découdre, et puis vous en avez d'autres qui, parce que finalement, ils ont peur justement que quelque chose leur arrive, et c'est plutôt pour se sécuriser. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec de plus en plus de jeunes qui ont des petits couteaux. Ça va être, on a déjà eu aussi des marteaux, enfin n'importe quoi, ce qu'ils peuvent trouver même
chez
leurs
parents. Tout devient une arme.
Tout devient une arme, soit pour se défendre, soit pour taper, en fait. Mmh. Et ça, c'est devenu de plus en plus problématique, parce qu'auparavant, dans les établissements scolaires, c'était bon, assez, c'était pas encore généralisé, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver un jeune avec dans son sac à dos un couteau, sauf que là, en fait, on a de plus en plus de jeunes porteurs d'armes blanches. Et là, ça devient réellement problématique.
Dans ma famille, on est aussi issu d'un milieu populaire, dans le sens où moi-même j'ai grandi en banlieue, alors pas forcément dans une cité, mais aussi en ayant des racines en province, à la campagne. On se rend compte aussi que là-bas il y a de la misère, il y a des gens qui vivent en retrait, qui sont en recul. Et qui, en fait, sont pas toujours, effectivement, dans des comportements violents, en tout cas de l'expression de la violence, de la même manière. En tout cas, c'est pas médiatisé aussi de la même manière, même s'il y a aussi de la violence à la campagne. Et c'est vrai que cette question identitaire, elle se rejoint dans les petits villages où on a aussi envie de représenter son clocher et par moments de l'affirmer. Alors, via des supports qui sont peut-être différents. Moi, j'ai connu des matchs de foot pour régler des petits conflits entre villages. Par moments, c'est aussi plus marqué dans la violence. Ça peut arriver, des bagarres à la fin du match, même à la campagne, je veux dire. Mais après, c'est aussi parce que on perçoit dans les quartiers populaires qu'il faut se montrer plus dur que ce qu'on devrait, que ce que la société attend, en tout cas. Il y a la notion de capital guerrier qui a été développée par un sociologue qui nous a aussi accompagné dans le cadre de l'association Contact, monsieur Thomas Sauvadet, qui intervient aussi beaucoup dans le Val d'Oise, et qui a mis en avant ce terme qui décline en fait les moyens que les jeunes s'approprient pour montrer qu'ils sont respectables au sein de la cité et aussi à l'extérieur. Donc ils développent ce capital guerrier en montrant à travers les médias, donc par exemple le rap, on montre les biceps, on montre parfois des armes, on montre du pouvoir symbolique, quand on a de l'argent par cette musique-là. On est aussi effectivement dans les bandes, on doit montrer qu'on est fort ensemble, et donc à travers la bande il y a des enjeux de pouvoir, et donc c'est un petit peu le coq qui fait sa place aussi dans une basse-cour, si on peut résumer un petit peu comme ça. Donc c'est ce capital guerrier qui existe, en tout cas, qui a été démontré sociologiquement dans certains quartiers.
La question, effectivement, de tout ce qui est cinéma, musique. Alors, est-ce que le cinéma et la musique sont le reflet miroir de ce que souhaite la société ? Ou alors, est-ce que la société et ses jeunes s'inspirent d'abord, en fait, justement, de cette musique et de ce cinéma ou de ce qu'on peut retrouver sur les séries, et ensuite on les retrouve derrière, en fait, sur des comportements sur le terrain.
De toute façon, au niveau de la culture de la violence, il y a effectivement aussi un lien, puisque dans un livre que j'avais lu, Histoire de la violence, donc dont j'ai oublié l'auteur, il disait que le problème d'Eric, c'était à la fois un phénomène historique qui venait des campagnes, puis après, avec l'exode rural, ça avait imprégné les villes ouvrières. Et donc, les villes ouvrières sont devenues maintenant les fameuses villes de banlieue, celles où il y a 84% des rixes qui se passent en France. Et où, en fait, dans ces villes-là, on ajoute aussi une tradition culturelle locale associée aussi à de nouvelles formes de culture, le rap violent venu des États-Unis, par exemple. Et donc tout cela contribue effectivement à diffuser aussi cette culture de la violence. Après, je rajouterai également par rapport au rôle des parents, que je pense que la situation est un peu nuancée, parce que certains jeunes n'ont clairement pas de bon exemple. Il suffit de voir les parents qui vont agresser des professeurs ou d'autres familles parce qu'on a puni leur fils, parce qu'il y a eu un conflit entre deux élèves, et donc les parents ou les frères et sœurs décident de s'emparer de ce sujet par la violence. Je pense qu'il y a aussi, on est vraiment dans des logiques de violence, dans des logiques de loyauté par rapport à son quartier, à sa famille, qui sont plus fortes que le simple rôle des parents.
Vous avez donc des parents démissionnaires, mais vous avez aussi des parents dits licenciés. C'est-à-dire qu'on voit bien ce clivage entre les parents qui n'en peuvent plus, qui ont fait tout leur possible pour tenir leurs enfants et qui, arrivés à un moment donné, ne peuvent plus les tenir concrètement. Et puis vous avez aussi des parents qui ont été clairement licenciés. C'est-à-dire que les enfants, n'écoutent plus leurs parents, en fait. Voilà, tout simplement. Ils sont éduqués par des grands frères ou des adultes. Pour ce qui est du profil des problématiques qu'on peut retrouver dans certaines familles, vous avez des familles souvent monoparentales, où la mère, malheureusement, se retrouve à avoir de boulot, rentre tard parce qu'elle enchaîne le travail, et donc les enfants se retrouvent seuls. C'est-à-dire qu'il y a... moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des pays... Voilà, au Maghreb ou en Afrique, où quand les enfants sont à l'extérieur, les gens qui sont autour, les voisins, vont surveiller les enfants. Ils vont se dire, ah ben, j'ai vu ton enfant, il a fait ci, il se fait même engueuler quand il fait une bêtise, etc. Donc l'enfant était repris, parce qu'il y avait derrière une communauté qui pouvait aussi se permettre de réprimander l'enfant. Donc je pense que cet état d'esprit, pendant un moment, potentiellement, aurait dû fonctionner dans certains quartiers, puisqu'on retrouve aussi... des secteurs où on retrouve des familles qui sont issues du même pays, par exemple. Et finalement, on voit bien que la rue, en fait, n'éduque pas l'enfant, que les gens, c'est effectivement chacun sa famille, chacun gère son propre enfant. Et il y a ça aussi, je pense, aussi à prendre en compte. Puis vous avez des enfants qui font en sorte de ne rien montrer aussi à leurs parents. Vous avez des enfants qui, dans les établissements scolaires, sont de vrais démons. Et puis, devant leurs parents, ce sont des anges. Mais comment ça ? Et pourtant, je suis. On a eu plusieurs parents qui disaient, mais moi, je vais à l'école. Je vois bien qu'il y a un problème quand il est à la maison. Mais tout va bien, tout s'est bien passé. Et puis, au final, non.
C'est vrai qu'on se retrouve avec une génération qui est élevée différemment parce que... l'histoire fait que les parents d'aujourd'hui, ils ont entre 30 et 40 ans. Et eux-mêmes, du coup, sont imprégnés d'un certain nombre d'aspects qu'on aura voulu leur faire gober aussi. Hein. Donc, tu parlais de la télé-réalité. Les réseaux sociaux, ça sont imprègnent en tout cas fortement la manière dont on conçoit le monde aujourd'hui, que ce soit pour ces parents-là et donc ces jeunes qui ont, eux, entre 12 et 18 ans. La question du lien, en fait, elle se pose parce que au sein de la famille, on a des gens qui vivent ensemble, qui vivent côte à côte, mais qui vivent pas vraiment ensemble. On a des familles qui se parlent pas forcément beaucoup. Il y a plus vraiment les repas qui servent aussi de régulateur au sein de la famille pour échanger sur la journée, sur comment ça s'est passé à l'école, tout ça. Bon, donc on a des jeunes qui se construisent. Pas mal tout seul, en fait, qui se construisent en lien avec, dans le rapport aux autres, entre pairs, mais le monde adulte leur échappe un peu. Et la compréhension qu'ils ont de ce système qui est fortement inégalitaire, on est dans une société de domination à tous les niveaux, dans les rapports hommes-femmes, dans les rapports de classe, riches-pauvres, pour caricaturer. Compétition où il faut être le plus fort, voilà, il faut se démarquer, il faut la mode, enfin tout va trop vite, etc. Et donc ça, ces jeunes, ils sont très perméables à ça parce que en fait, ils n'ont pas le filtre de la compréhension de ça, c'est-à-dire qu'ils réagissent à l'émotion. Peut-être que nous, pour moi-même, en tout cas, je parle, j'ai aussi eu quelqu'un qui m'a expliqué tous ces concepts-là à la maison. Et ça m'a permis aussi, quand j'étais énervé, de mettre un petit peu à distance et de mieux me comporter par rapport à ça et d'avoir des clés pour essayer de mieux réussir. Parce qu'on m'a montré ces chemins par la compréhension, par des, par l'intérêt, voilà. Moi, j'écoutais aussi beaucoup de rap quand j'étais jeune, sauf que le rap aussi prenait une autre forme. Et ces rappeurs m'ont aussi éduqué. C'est-à-dire que quand on écoutait IAM ou NTM, pour citer que c'est souvent eux qu'on remet, mais moi, il y avait Sniper, il y en avait d'autres. Cynique aussi, par exemple, qui expliquait aussi des choses qui étaient très violentes dans les quartiers, etc. Mais ils donnaient des clés de compréhension. Il y avait dans les textes quelque chose de l'ordre un peu de la sociologie. Même si c'était pas leur prisme à eux, ils racontaient simplement des choses. Mais c'était pas gratuit. Il y avait une explication. Il y avait en tout cas des éléments. Et moi, ça m'a éduqué. Ça m'a même fait m'intéresser à ces jeunes. Parce que en fait, j'avais accès à tout un univers que je connaissais pas forcément et qui m'a permis de mieux comprendre. Et aujourd'hui, quand on écoute parler de la musique, du rap, mais même dans certains films, c'est vraiment de la violence gratuite. Et donc aujourd'hui, l'industrie se gargarise bien aussi de récupérer ça pour des fins de profit, en fait, hein, commercial uniquement. Et c'est ce qui plaît, c'est ce qui marche. Et finalement, on se pose plus la question de l'impact que ça a pour nos jeunes. Le rap d'aujourd'hui, selon moi, n'est plus du tout émancipateur comme il pouvait l'être par la compréhension et par l'analyse et par des formes de distance. Et parce qu'en plus, ça fait du bien de dire quand on a mal, mais de l'écrire et d'exprimer pourquoi. C'est comme un journal intime, on explique pourquoi, on n'explique pas juste la douleur, on explique d'où ça vient, etc. Et en fait, là, on a perdu ça au profit des grands, des majors, des multinationales, de ces grands groupes, en fait, qui pensent qu'à faire du profit. Donc, c'est notre société, et donc ces jeunes sont perméables expressément de tous ces systèmes. Qui leur échappe dans la compréhension.
Je t'envoie ma vision de ce monde et de ce que j'en sais, de ce que j'en pense. Tu sais comment les gens sont. La course aux richesses nous a fait perdre de vue le reste. On fonce sans limite de vitesse, la tête dans le guidon et à côté de ça.
Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai argenté, c'est ma première expérience de travail. Et c'est vrai que là où j'ai été beaucoup marqué, c'est quand certaines directrices d'établissement, par exemple, nous disent bah, nous, on a des jeunes. Le père de famille, il arrive, il dit tu es en cinquième, donc tu as 12-13 ans, tu es assez grand pour prendre tes décisions. Donc on s'est retrouvé confronté à ce genre de situation, donc je pense que ça reste quand même une minorité de familles, mais cette situation-là existe. Mais aussi, je pense que des fois, dans certaines familles, on a peut-être une culture de l'attachement et... de l'expression d'attachement qui est aussi différente. C'était un des témoignages d'hier où un acteur associatif disait ben, quand on dit à ces jeunes-là, tu as du talent, tu peux le développer, ils disent mais c'est la première fois qu'on me dit ça. Et donc je pense que comme on a beaucoup de jeunes qui sont laissés en autonomie à un âge pas un peu trop précoce, sachant qu'on est dans des territoires qui sont parfois hostiles, puisque dehors, y a des trafiquants, il y a des groupes de jeunes qui veulent aller se bagarrer, tout ça. Et ça provoque effectivement le fait que la nature ayant horreur du vide, ces jeunes-là, ils vont se faire embrigader dans différentes situations qui ne sont clairement pas utiles à leur développement personnel.
Demande aux jeunes si l'avenir les fait rêver. Difficile de parler de futur quand le monde est en train de crever.
Voilà, je pense qu'il y a une fragilité pour ces jeunes sur le plan de l'existence, de là où ils sont, en marge d'une société, etc. Donc, on doit exister, il faut absolument montrer qui on est pour se sentir vivant, tout simplement. Et si on leur donne pas des clés pour essayer de se sentir vivant autrement, ils iront chercher un moyen de le faire. Et donc, ça s'exprime par la violence, parce que c'est ce qui est mis en avant, c'est ce qui est médiatisé. C'est ce qui est médiatisable, en tout cas, aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose de violent, on le montre. Et donc, on vient chercher, effectivement, une notoriété, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça, on peut la qualifier comme on veut, nous, de l'extérieur, mais en tout cas, ces jeunes, ça leur fait un nom. Et ce nom, ça leur donne aussi du pouvoir. Et donc, ils viennent pour chercher du pouvoir.
Ce
qu'il y a, c'est qu'on peut écouter de la musique violente, on peut regarder un film violent, on peut, voilà. Mais nous, parce que nous, on a ce prisme le recul, on a de la compréhension, et on sait même dans quelle intention la musique est faite. Après, on peut trouver le rythme entraînant et se laisser nous-mêmes entraîner. Par moments, on fait même tous des soirées Voilà, moi j'ai 33 ans, ça m'est arrivé. Bon, moi pas trop, mais des amis le faire. Je leur dis ouais, mais bon, vous valorisez des choses qui, moi, vu que je suis éducateur aussi, me touchent, parce que à un moment donné, quand on écoute des choses qui nous aliènent en fait au quotidien, parce que ça se résume à de la violence qui est exprimée, ou du rapport de domination, notamment aussi les femmes qui sont très mises à mal dans les textes, dans les clips, etc. Voilà, pour moi, c'est pas des choses que je veux mettre en avant. Et il y a d'autres formes d'expression que ça, et même à travers le rap, il y a plein de formes très positives de manière d'écrire qui sont très belles, etc. Et ces rappeurs-là sont pas mis en avant. Donc ça, c'est des choses que je regrette. Mais nous, on a en tout cas les moyens de mettre un peu de distance quand on écoute du Lacrime, comme tu disais, alors que ces jeunes n'en ont pas.
C'est vrai que l'exposition à la violence, finalement, ne crée pas, va avoir un impact sur la, en tout cas, la construction d'une personne. Si vous prenez deux jeunes, famille un peu similaire, vous les mettez dans des environnements complètement différents, où l'une va être très fortement exposée à la violence et l'autre pas du tout, ou plutôt on va valoriser plutôt les actes positifs, et bien vous n'allez pas avoir les mêmes jeunes au final. Quand ils vont avoir 15 ans, ils vont être scolarisés dans une même implication, etc. Donc ça a un impact, c'est tout à fait normal. Parce que, et quand vous vous exprimez sur le fait que la musique ou la parole, l'attention à l'autre peut avoir des effets sur son ressenti ou l'expression de, parce que après c'est ce qui va se passer au niveau de son cerveau, est-ce que ça va créer un désir de violence ou pas, etc. C'est en fait c'est lié à la fréquence, à l'énergie des mots et la fréquence qui est sur laquelle on fait, parce que nous sommes des êtres de matière et nous sommes en fait sensibles à l'énergie. Et c'est ça qui fait une grande différence. Donc nous, quand on accompagne des jeunes, quelquefois, on ne serait-ce que poser notre main sur leurs épaules, on sent tout le corps qui se rigidifie. Donc ce sont des jeunes qui sont prêts déjà, il suffit d'un déclencheur. Donc il faut du temps. Et la culture de valoriser les actes positifs, c'est des choses qu'on doit enseigner très tôt.
Il y a effectivement beaucoup de cas où, nous, à l'échelle d'Argenteuil, par exemple, où on a plein de regroupements de jeunes. Pourquoi ? Parce que les parents leur disent « Il est 16h, tu vas dehors et tu rentres pas avant la couchée de soleil. »
Moi, je vais essayer d'être indulgent avec les familles et les parents. Je pense que il faut mettre du cadre, dans tous les cas. Et nous, même les éducateurs, on est là pour mettre du cadre. En tout cas pour proposer un cadre qui est épanouissant et qui permet aux jeunes de se retrouver et d'être fiers de lui et d'avancer. Si les parents n'en mettent pas, selon moi, c'est parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Parce qu'il y a des éléments qui leur échappent, toujours dans la compréhension, nos institutions, le rapport à l'école. C'est pas facile l'apprentissage, on ne sait pas toujours répondre aux besoins de nos gamins, etc. Quand on est parent et par moment qu'on vient d'un autre pays qui a pas du tout le même rapport à l'apprentissage, à l'école. En plus on apprend aussi des choses qui sont de la reproduction sociale. On étudie les grandes œuvres, les grandes œuvres littéraires, les grands tableaux de peintres, etc. C'est des choses qui eux les représentent pas. Donc c'est aussi difficile pour eux de s'intéresser à ça. Donc si en plus on n'est pas derrière poussé un petit peu, en gros on lâche, hein, on n'a pas envie. Donc ça c'est une chose. Ensuite, donc nous, notre mission c'est de proposer justement dans d'autres de l'éducation populaire, c'est ça, hein, c'est de rendre accessibles des choses qui sont pas forcément accessibles pour eux et d'essayer de recontextualiser, d'expliquer, et d'accompagner. Donc c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est que nous, les travailleurs sociaux, qui sont en capacité de prendre le relais des parents quand ils sont par moment en incapacité de le faire, et dans les quartiers, il y en a de nombreux parents qui sont pas en capacité d'accompagner. Donc nous, on sert à ça, et nos moyens sont toujours de plus en plus limités. Et on le voit aussi au sein de l'éducation nationale, qui a un relais important. Nous, on travaille en lien avec les collèges, parce qu'on s'intéresse à la question de l'adolescence des 11 à 25 ans, hein, jusqu'à 25, mais, donc à partir des collèges. Mais même les écoles primaires auraient besoin d'être renforcées. Et on voit bien qu'un prof, aujourd'hui, il a autant le rôle d'assistant social que il est perdu, il est noyé aussi dans un truc qu'il n'arrive pas à résoudre. Donc les moyens donnés aux structures des intervenants sociaux dans les quartiers, mais également au niveau de l'éducation nationale, sont insuffisants. Et la tendance, c'est que de toute façon, le message qu'on nous envoie, c'est vous ne servez plus à grand-chose. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. On vous retire petit à petit jusqu'à ce qu'à un moment, je pense qu'on disparaîtra. Nordine, tu me diras ce que tu en penses. Mais selon moi, peut-être en plus là avec l'extrême droite qui avance, etc. Donc cette question-là de la prévention est de moins en moins prioritaire, mais parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on a lâché. Alors que nous, sur le terrain, on y croit, on se bagarre. Mais je pense qu'à un moment donné, les politiques sont trop déconnectés et ne se rendent pas compte du travail qu'on peut effectuer. Ils n'écouteront jamais ce podcast. Et je veux dire, à un moment donné, voilà, il faut s'intéresser de près avec les acteurs et les écouter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Je tiens vraiment quand même à parler comme des parents, parce qu'on en a rencontré des parents qui vont frapper des enseignants. Pour moi, je pense qu'on n'est pas assez sévère avec les parents. C'est-à-dire que on va mettre l'accent sur la responsabilité de l'enfant, parce qu'il a fait, il a commis une rixe, parce qu'il a eu une bagarre dans l'établissement scolaire, parce que, etc., etc. En revanche, les parents, ils sont pas forcément entre guillemets punis. Ouais. Je pense qu'en fait, il faudrait avoir une répression. Pour moi, 80% en fait des problématiques de rixe sont d'abord de la responsabilité des parents. Il y a un enfant qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, il n'a pas à être dehors à 11h du soir ou à 10h ou même à 21h, enfin même 20h j'ai envie de dire, et encore avant quoi. Donc les parents sont totalement responsables. À la mairie d'Argenteuil, on réalise ce qu'on appelle des rappels à l'ordre, où on convoque les parents. Quand on a des enfants qui sont, des perturbateurs, qui participent soit à des rixes. En gros, le rappel à l'ordre, c'est quand une action ne peut pas être judiciarisée parce qu'il n'y a pas eu de dépôt de plainte, par exemple, par une victime. Eh bien, plutôt que de laisser sans réponse en fait ce type d'action, l'État a mis en place un dispositif qui s'appelle le rappel à l'ordre. Le maire, n'importe quel maire, fait une demande auprès du procureur de la République en expliquant les faits. Voilà, c'est un enfant qui a tabassé ou qui a jeté de la colle sur une professeure. Voilà. Le procureur accorde au maire le fait de recevoir donc l'élève, le corps enseignant, plus les parents. Et puis, on le reçoit avec un consortium. Vous avez le commissaire de police qui est présent, monsieur le maire qui est office d'OPJ à ce moment-là. Vous avez également les adjoints au maire et puis les responsables. Et là, il y a un rappel à l'ordre qui est fait. Si la personne continue, eh bien, récidive, à ce moment-là, ça ira au pénal.
Si tu sanctionnes quelqu'un qui ne sait pas faire, tu peux le sanctionner 1000 fois, il ne saura toujours pas faire. Il faut accompagner et donc questionner, de sorte à ce que la personne puisse aussi entamer une remise en question. C'est pas facile. Il faut du temps, etc. Et nous, les acteurs associatifs, éducateurs, de type éducateur, on essaye aussi de proposer ça. Mais moi, j'ai un cas concret qui montre que c'est compliqué cette question-là, parce que j'ai un jeune, deux jeunes qui sont sortis avec des éducatrices sur une base de loisirs l'été dernier. Ils ont insulté en retour de la base de loisirs via des médias, WhatsApp et compagnie. Ils ont insulté l'éducatrice qui est dans mon équipe. Et donc via un vocal. Ce vocal, je l'ai écouté. Il était extrêmement violent et ça parlait de « t'as fait la pute »,« t'as fait la salope », des mots extrêmement violents, choquants, qu'on ne dit pas à une femme et encore moins à une éducatrice qui représente l'autorité. Parce que selon ce qui a été exprimé, c'est qu'elle était en maillot de bain, parce que c'était la base de loisirs. Et qu'à un moment donné, tu montres parfois un peu ton corps aussi quand t'es. Et donc moi, j'ai des éducatrices qui veulent plus se mettre en maillot de bain devant les jeunes parce que c'est compliqué ce rapport-là. Donc moi, en étant responsable, je me suis dit je ne peux pas laisser passer ça. Il faut absolument que le jeune aille vers une forme de sanction, en tout cas que nous on puisse la prononcer et qu'on aille aussi faire ce travail-là avec les parents. Donc j'ai pris mon téléphone portable avec l'enregistrement audio, puisque ces cons là ils ont fait un vocal, donc moi je l'avais le vocal. Donc c'est pas le meilleur moyen quand tu veux insulter quelqu'un de laisser des preuves, mais bon. Et donc du coup je suis allé avec le vocal, je suis monté dans la famille, la mère m'a reçu, j'ai avec son petit qui avait 14 ans, et elle a écouté le vocal, elle était extrêmement choquée des propos de son gamin, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a mis trois torgnoles devant moi. Et moi, c'était pas du tout l'effet que je voulais. C'était entamer une phase de dialogue avec à la fois tripartite, voilà, avec l'enfant, la maman, et puis moi-même, donner mon positionnement d'éducateur, et puis elle aussi, qu'on puisse échanger. Et ça n'a pas été possible, parce qu'une fois que la maman s'est mise en émoi et qu'elle a fini par le taper, le gamin, il s'est renfermé sur lui-même, il ne parlait plus, et moi-même, j'étais dans une posture de « je fais quoi ?» Parce que ce n'était pas mon intention, et même je me sentais mal d'avoir fait ça, parce que je me suis dit « peut-être on a été trop loin dans la violence aussi ». Et 2-3 semaines après, on a appris que ce gamin, il a fugué à Marseille pour des histoires de stupéfiants, de trucs et tout. Et je me suis demandé si peut-être ça a eu un effet aussi dans sa tête d'avoir été accueilli comme ça, pas accueilli mais cueilli comme ça, par moi-même aussi. Voilà, on aurait peut-être trouvé une autre manière de faire pour résoudre, parce qu'il fallait dans tous les cas faire quelque chose pour mon équipe. Je pouvais pas laisser des choses comme ça.
Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le vocable prévention répression, ça va ensemble en réalité. C'est, on peut pas distinguer l'un sans l'autre. Donc, mais alors. On sait que les jeunes qui sont dans des comportements violents, notamment dans les rinks, on sait que ça se manifeste, leur déviance se manifeste très tôt, qui sont en décrochage scolaire. Aujourd'hui, si on regarde les établissements scolaires, notamment les collèges, vous avez vu, sur un collège de 400, 500, 800, il y a peu d'adultes au final à l'intérieur, si on exclut les professeurs. Donc, il faut remettre des moyens. Aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes rapports de relations des jeunes avec les institutions, avec les adultes. Donc, on n'est plus dans une situation d'apaisement qu'on a connue. Donc, il faut absolument qu'il y ait des moyens en face. Vous pouvez prévenir facilement. On voit que, par exemple, il y a beaucoup de RICS qui naissent à l'intérieur des collèges et qui vont s'exporter à l'extérieur. Donc, on doit pouvoir mettre en place des agents de prévention qui sont dans les établissements scolaires, qui peuvent prévenir et un petit peu éradiquer à la souche les problèmes de conflits entre les jeunes. Ça ne se fait pas aujourd'hui, il n'y a plus de moyens d'éducation nationale. Travailler le lien social sur les territoires. La présence des adultes sur le territoire est essentielle, est importante. Quand je parle d'adultes, c'est à la fois les médiateurs, par exemple sur la ville d'Argenteuil, il y a un service de médiation qui est très important, qui est sur le territoire et qui est en lien avec les populations. Donc ça aussi que ça contribue à maintenir un maillage de relations et d'informations lorsqu'il y a des jeunes qui peuvent passer à l'acte, etc. Et de prévenir un peu tôt, en tout cas en amont, quand il y a des situations à risque. C'est aussi permettre aux adultes, les parents, d'occuper l'espace public. Et aujourd'hui, on a peu de gens qui occupent l'espace public parce que, comme vous disiez, chacun chez soi, dans etc. Donc, nos collègues Maxime disait tout à l'heure, l'émancipation par la culture. Bien entendu, on a des jeunes qui ont peu de moyens de s'exprimer. Si on interroge des jeunes qui sont au collège, si vous leur permettez, si vous mesurez le vocabulaire qu'ils ont, ben vous allez voir que c'est très pauvre. Donc il faut que ces jeunes puissent s'exprimer au-delà, autrement que par la violence. Donc c'est les canaux de communication, ça va être par les arts, par la culture, en tout cas leur donner le sport, pour leur donner des moyens. Aujourd'hui, sur un des territoires comme à Argenteuil, où nous on intervient sur plusieurs territoires, mais sur chaque territoire on a entre 25 et 30 000 habitants, vous avez 4 éducateurs. Le coût d'éclat médiatique pour intervenir ponctuellement aujourd'hui sur les 15, 16 ans, 17 ans, c'est ponctuel, qui va servir pas à grand chose que faire un éclat médiatique. Si vous voulez intervenir, il faut travailler beaucoup plus en amont avec une classe d'âge. Et voilà. Et permettre à ces jeunes-là de se mélanger de territoire à territoire. Aujourd'hui, on a aussi des jeunes qui ont été impliqués dans des rixes ou dans des comportements de violence qui témoignent. Donc, le témoignage par les pères, on observe que ça marche beaucoup. Donc, il faut mettre en tout cas des actions et les moyens au niveau, on va dire, des 8, 10, 12 ans. Si vous commencez à travailler sur les 17 ans, ils se sont structurés à travers la violence, leur corps, leur mentalité, leur esprit est voué et tourné vers cette culture-là, et c'est un échec.
Et pour revenir aussi à des solutions, alors moi c'est plutôt toujours sous l'angle de la prévention, c'est mon métier, mais c'est l'idée qu'il faut remettre aussi sur pied la protection de l'enfance. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, là on n'en a pas parlé, on a parlé de l'éducation nationale, les intervenants sociaux dans les quartiers, nous on travaille aussi de la protection de l'enfance, mais on n'a pas cette mention judiciaire. On travaille pas pour la justice ou pour un juge, on n'est pas, voilà. Donc du coup, on a une approche un peu souple, on va dire, du travail social. Et si on va on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des foyers de l'enfance, les MECS, on appelle ça dans notre jargon, et les mesures AEMO, les mesures en milieu ouvert d'intervention des éducateurs dans les familles, aujourd'hui, il y a, j'aurais pas les chiffres, mais il y aura un tiers des mesures qui seront pas appliquées, même si elles sont prononcées par le juge, parce que, et un tiers, je pense que je suis encore gentil, parce que en fait, il y a pas les moyens, c'est-à-dire qu'il y a pas l'éducateur qui va, l'ASE est débordé, il s'occupe plus des gamins comme il devrait. Et en fait, nous-mêmes éducateurs de rue, si on doit s'impliquer par moment dans les IP, donc les informations préoccupantes, parce qu'on connaît les situations de jeunes, on se dit des fois, attention, je vais pas l'envoyer finalement en IP, je vais pas l'amener au bout parce que je me dis que finalement ça va peut-être être pire pour lui en étant dans un foyer, parce qu'il va être moins bien pris en charge encore que dans sa famille. Alors que c'est déjà chaotique. Et si vous voulez, et puis il y a une banalisation des comportements aussi, où des fois je me dis, bon, bah, il y en a un pour qui je fais une IP, je vais en faire pour 15 autour. Parce que les gamins, aujourd'hui, il y a une fragilité extrême. Donc, du coup, même nous, on a notre curseur, on l'a remis un peu à la baisse. Et voilà. Et donc, du coup, on en fait moins, etc. Parce qu'on sait que c'est compliqué de l'autre côté, ça suit pas. Et donc, on se dit, dans quoi on va mettre les jeunes? Alors que si on avait confiance dans notre système derrière de prise en charge, bah, peut-être qu'on pourrait se dire, allez, on va en faire pour que ça puisse bénéficier et tout. Aujourd'hui, moi, si je fais une IP, j'ai peur que ça me retombe dessus. Parce que le gamin, il va être pris en charge, ça va être chaotique. Et derrière, la famille, elle va se retourner contre moi. Parce qu'à juste titre.
On observe quand même une déqualification des gens qui encadrent les jeunes. Que ce soit va dans le milieu de l'animation, jusqu'à l'éducation nationale et même jusqu'à la police. Vous avez aujourd'hui, si vous allez, comme Maxime le dit, à l'aide sociale à l'enfance, les gens qui ont, comme il n'y a plus beaucoup de professionnels, il y a une déqualification, donc les gens qui encadrent, ils n'ont pas forcément la formation pour encadrer ces jeunes-là. Vous avez dans le travail social, c'est pareil. Vous avez sur la jeunesse, on disait tout à l'heure que l'éducation populaire, mais ce n'était pas les mêmes profils de professionnels qu'aujourd'hui. Vous dites, mais sur le quartier, oui, mais il y a de l'animation pour ces jeunes, ils peuvent faire du théâtre, etc. Mais regardez les profils des gens qui accueillent ces jeunes-là. C'est des gens qui ont eux-mêmes ont un déficit culturel. On a déqualifié, on a réduit les coûts, etc. Et au final, vous avez une prise en charge qui lisse vers le bas. Donc, si vous avez des professionnels qui encadrent des jeunes qui ressemblent de plus en plus à leurs parents ou à la problématique des jeunes de leur quartier, on n'arrive pas à créer de la maturité, de l'émancipation chez ces jeunes-là. Parce que du coup, c'est un réel problème. Voilà. Ensuite, sur l'aspect de créer une journée, en tout cas un mouvement d'éducation citoyenne, une journée. Alors, une journée citoyenne ne suffit pas. Le problème aujourd'hui, c'est que la France n'a plus les moyens de le faire.
Ouais.
Elle n'a plus les moyens de le faire. Je crois que ça a été. Ils ont chiffré, les gens qui réfléchissent sur cette question, c'est plusieurs milliards pour prendre en charge ça. Et en plus, il faudrait que les jeunes qui sont concernés par les RICS puissent y accéder. Parce que. Si vous regardez bien, les jeunes, on dit les jeunes, bon, ils ne sont pas intégrés, ils ne mesurent pas les coûts, etc., mais ils sont suradaptés au système. Si on prend les réseaux sociaux, ils les utilisent, ils les détournent à leur fin, et vous voyez bien comment finalement, quand il y a des choses qui se créent, les jeunes, avec leur créativité, ils vont la créer dans un sens de déviance. Mais ils vont l'utiliser. Donc l'intelligence n'est pas mise au service de la collectivité, elle est mise au service d'une déviance et pour faire du business de manière illicite. Voilà. Et ça, donc, du coup, si vous créez un mouvement donc, d'éducation civique qui va durer sur des mois, etc., il faudrait permettre à ces jeunes-là de ne pas pour y échapper.
Le respect, finalement, il arrive avec les grands trafiquants qui possèdent des territoires, qui possèdent plus d'argent que la police, qui sont plus équipés que des policiers et qui, du coup, vont montrer leur pouvoir et leur autorité auprès des jeunes, et ces jeunes-là vont se tourner vers cette autorité. Il faut de la prévention, des moyens dans le cadre de la prévention, des moyens aussi policiers. Il faut plus de policiers sur le territoire. On n'a pas assez de policiers, soit parce qu'il y a un problème de recrutement, et ça c'est aussi important, soit aussi parce que les policiers ne sont pas aussi payés, aussi parce que leurs infrastructures sont à revoir aussi, parce qu'ils sont dans des conditions assez mauvaises aussi de travail. Et je pense que c'est des deux côtés, il faut équilibrer les forces en fait. Et la prévention, et la partie coercitive.
Et la police de proximité aussi.
La police de proximité fonctionnait très très bien et qui disparaît malheureusement.
Le tableau est forcément noir puisque ce qu'on est en train de vous expliquer là au sujet des moyens, des associations, des policiers, tout ça, et ben on le retrouve à l'hôpital, on l'a vu durant le Covid, on le retrouve à l'école parce que on a été un petit peu critique envers l'éducation nationale. Donc j'espère que vous leur donnerez un droit de réponse.
Ces métiers ne font plus rêver en fait.
Mais voilà, ça c'est des métiers qui ne font plus rêver, c'est des métiers
sous-payés,
qui vont des fois, comme on disait, il y a une mauvaise prise en charge des jeunes, puisque c'est des métiers qui ne vont pas forcément attirer complètement les meilleurs, mais que ce soit dans tous les métiers de la fonction publique. Là, voilà. Et donc oui, le tableau est noir parce qu'il y a un délaissement, on est dans une période un petit peu de délitement. Et donc là, on est un peu à la croisée des chemins.
Il y a les rendus humains aussi, parce que tout se digitalise.
Et l'erreur du collège unique.
Nous, on a pour objectif, dès l'année prochaine, de trouver dans chaque quartier des jeunes ambassadeurs qui vont être là pour montrer le bon exemple. Parce qu'évidemment, il y a dans les quartiers des pépites, plus que des pépites, et beaucoup de pépites. Et ces jeunes-là peuvent être donc des témoins directs de leur propre récit et divulguer en fait, avec leur chemin de vie, etc., qui peuvent réussir, qu'il y a d'autres possibilités de réussite que d'aller faire le chouf pour du stup, que d'aller se prostituer ou que d'aller se combattre, parce que ils ont un problème aussi, les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas une vision d'avenir. Mais ça, c'est dans leur construction mentale. C'est difficile. Et donc, aussi, leur montrer qu'il y a des années qui vont arriver, et plus vite qu'ils ne le pensent, et que voilà, ils ont des possibilités de réussir.
Il faut aussi quelquefois que jeunesse se passe, parce que si, non mais c'est vrai, si on regarde, si moi je regarde il y a 20 ans ce que sont devenus les jeunes qui étaient dans les risques il y a 20 ans aujourd'hui, ces gens-là sont insérés dans la société, ces gens qui pour la plupart travaillent, ont une famille, etc. Donc du coup il faut quand même avoir de l'espoir, parce que ces gens évoluent de manière générale.
Après c'est vrai que on a des risques qui donnent des morts, c'est difficile de faire passer ce message-là dont tu parles, Nordine, même si la grande majorité des jeunes qui sont dans les risques finissent par s'en sortir, bien sûr, et ça, il faut le dire. Voilà, moi, on n'a pas parlé de solutions concrètes. Finalement, on parle de problèmes institutionnels, de problèmes de fond qui sont réels et qui sont très importants à dire, parce que c'est, il n'y a que comme ça qu'on fera évoluer les choses. Et nous, à notre niveau, on fait aussi la promotion des jeunes, de la jeunesse. On essaie de les stimuler vers des choses intéressantes pour eux. On fait des sorties au musée. On fait des samedi prochain, je vais au musée d'Orsay, puisque Argenteuil est partenaire jumelé avec le musée d'Orsay pour encore l'année en cours, hein, jusqu'à l'année prochaine. Et là, on va voir justement des tableaux autour des questions de prostitution, du regard qui était porté sur la prostitution dans les années au 19e siècle. Ça va avoir des débats avec les jeunes et tout. Moi, j'aime toujours faire ça. On a l'opportunité encore de faire des séjours avec les jeunes, de partir avec eux, de les faire échanger, discuter. C'est comme ça qu'on arrive à créer du lien. Et donc ça, on prend toujours plaisir à le faire. On veut aussi qu'on continue à faire du travail autour de l'interquartier, c'est-à-dire de travailler avec les collègues des autres quartiers pour vraiment réunir les jeunes. Là, il y a un projet aussi qui est porté par la direction sécurité publique pour réunir des jeunes autour d'un voyage. Peut-être qu'il faudrait remettre les colonies de vacances aussi, comme il y avait à l'époque. Sur l'idée pour une mairie de partir, peu importe le quartier, on se retrouve tous le temps d'une colonie. C'est chose qui existe moins, ça. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont pas finalement très très coûteuses non plus. Mais bon, c'est des choix qu'on fait, c'est les tendances de société. Malheureusement, voilà, je reste optimiste à mon niveau, mais c'est parce qu'on fait ce qu'on aime et on continue de se battre. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué.
Vous venez d'écouter le podcast Rix Zéro, la parole est à vous. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur idfm98.fr.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love, and I know when that hotline blink, that can only mean one.
ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, ever since I left the city.
Tous vos artistes préférés sont sur IDFM Radio.
But I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway.
IDFM Radio, 98 FM.
IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
On s'est croisés près de Matignon et Cupidon n'a pas dit non. J'ai fait la moitié du chemin, un peu comme le pont d'Avignon. Avec un genou presque à terre, moi qui étais cet homme si fier, je ne me suis jamais démonté quand tu disais y'a rien à faire. C'est l'amour avant tout, c'est ça. Et c'est l'amour qui prend, c'est ça. Et c'est l'amour qui rend fou, c'est ça. Do you love me? Do you love me? Alors maintenant tu penses à moi, parlons de toi et ton caractère. On peut dire que tu ne m'as pas raté, tu m'as comparé à ton père. Faudrait qu'on pose la balle à terre, mais mademoiselle est trop fâchée. Après l'été c'est pas l'hiver, je n'écoute plus tes balivernes. C'est l'amour avant tout, et c'est l'amour qui prend, et c'est l'amour qui rend fou. You love me. Je reviens vers toi sans pleurer, car mon égo s'en est allé, s'en est allé, s'en est allé.